Assoyez-vous confortablement et prenez plaisir à écouter ces contes et légendes venus d'ailleurs ou d'un autre temps. Voici Contes pour grands-enfants. Aujourd'hui, c'est un conte de Henri Poura qui était né en 1887 et mort en 1959. C'est un écrivain français et il a recueilli la littérature orale de l'Auvergne. Il est l'auteur de contes, de romans et d'essais concernant cette région. Ce que je vous lis aujourd'hui, ça vient d'un livre qui s'appelle « Contes du vieux temps » par Henri Poura, le conte de la demoiselle au long nez. Il y avait une fois un garçon, c'est léger de cervelle, qui sortit de sa maison par un matin de brouillard et qui ne put pas la retrouver. Il ne la chercha pas beaucoup. Il n'avait plus ni père ni mère. Mais depuis longtemps, il désirait rouler la France libre comme l'air. Il partit, ne se chargeant que de 30 sous qu'il avait et de sa belle humeur. Ses sous ne firent pas longtemps. Il continua la route, y ramassant la pomme dans l'herbe. Pomme qui tombe au fossé sera pour le soldat. Et couchant à l'auberge de la Belle Étoile. Un matin qu'il allait, suivant la sente au peuplier, il arriva à un moulin qui ne tournait ni trop vite, ni trop fort, qui ne tournait pas du tout. Dans un coin d'ombre était assise une fille, qui ne semblait pas bien joyeuse. Mais sur sa figure tachetée de rousseur, comme un œuf de caille, elle avait quelque chose de si bon, de si vrai, qu'on était tout content de la regarder un peu. « Votre meunier, » fit le garçon en la saluant d'un coup de tête, « votre meunier s'est trop réveillé et le moulin s'est endormi. » Il n'eut pas plus tôt dit qu'il vit une larme rouler des yeux de cette fille. S'approchant alors, il demanda s'il y avait quelque malencontre. Cette fille lui répondit qu'elle demeurait seule ici avec son père, que son père était mort, que le trac du moulin s'était détraqué et que pour le réparer ne se trouvait personne dans le pays. « Sans avoir appris, je suis un peu charpentier de mes mains, » dit le garçon. « Voyons cela. » Ayant ainsi demandé la permission, il entra dans le moulin. Il regarda l'engin, il vit quelle pièce de la mécanique était cassée. Il alla au galetas prendre ce qu'il fallait parmi les haies, les planches, et empoignant une scie, se mit au travail. « Mais, disait cette fille, c'est que je n'ai pas d'argent. » Et d'avouer sa pauvreté la faisait rougir comme une braise au four. « Comment vous payez de vos peines? » Lui, continuant de clouter, 3 pointes entre les lèvres, faisait signe qu'il n'y avait pas à s'embarrasser de la chose. « Voyez, ce ne sera pas long. Tout sera fait avant la chute du soleil. » L'après-dîner, tout était fait. « Oh, un grand merci, je peux vous dire. Les gens reviendront dès qu'ils sauront que le moulin tourne. Je mettrai de l'argent de côté, et quand vous repasserez, je vous paierai votre dû. » « De ce dû, ne vous tracassez pas. » Mais je sais ce que je vous donnerai en attendant. Ce sera ce que j'ai trouvé dans un coffret sous une pierre, à savoir une bourse vide, une ceinture de cuir et un cornet de cuivre comme en ont les chasseurs. Pour lui faire plaisir, le garçon accepta les 3 choses, mit la bourse dans sa poche, se ceignit de la ceinture et pendit le cornet au col par un cordeau. Puis, avant de se remettre en route, il requit la petite meunière d'un baiser par-dessus le marché. Elle se laissa embrasser, toute rouge, sans penser à mal. Mais tant fut-elle bonne à regarder, lui ne la regarda pas trop. Il aurait pu comprendre qu'il faut un homme pour faire tourner un moulin. Oui, s'il avait su s'ouvrir les idées, voir ce que valait cette fille, parler un peu, sans faire entendre, qu'avait-il besoin d'aller plus loin rouler le monde? Seulement, étourdi comme le premier coup de matine, il partit. Il prit le chemin qui dévale, et la petite meunière le regarda partir. Il allait vers un pays dont il avait ouï parler. Tous les gens y étaient gourmands, toutes les filles y étaient jolies, et la fille du roi plus gourmande et plus jolie que toutes les autres. Il ne me déplairait pas de la voir, cette fille. Et il ne me déplairait pas de faire bonne chère. Oh, qui sait, tout peut venir. Je n'avais rien. J'ai déjà une bourse. C'est vrai qu'elle est vide. Il y faudra 50 écus. Au même instant, il sembla que quelque chose s'est mis à peser en sa poche. Il y mit la main, tire cette bourse, voit de l'argent luire à travers les mailles. Mais je rêve! Il vide la bourse au creux de sa main, compte les pièces. 50 écus. Ah, ça! Suffirait-il de dire 50 écus, j'y veux! Il en fit laisser sous ses yeux, voilà la bourse garnie. Il recommence, saisi de joie et quasi fou. Autant de fois qu'il lui chante, la bourse s'emplit de beaux écus bien ronds. Quand elle m'en a fait don, la petite meunière ne savait point cela. En conscience, je dois lui rapporter la bourse. Il le ferait, bien sûr, mais il pouvait d'abord se fournir un peu lui-même, puisqu'elle, elle n'y perdait rien. Riche comme le roi. Plus riche que le roi. Ah, la bénédiction! Et de faire ruisseler ses écus d'une main dans l'autre, qu'importe même si deux ou trois roulaient dans la poussière, et de sauter, de crier, de chanter. Il pouvait s'en donner puisqu'il était tout seul dans un pays perdu. Rien que genêts, broussailles alentour et bande sur bande de forêt par les lointains. Dans son transport, pourtant, ce fol a mené un tel train que d'une lieue on n'eût pu l'entendre. Les voleurs ont l'oreille fine. Le métier veut cela. Tout à coup, lui tombe sur le poil une compagnie de larrons. Et lui, là, au milieu de ses landes, tout seul et sans secours. Par je ne sais quelle idée qui lui vient, il saisit le cornet et le porte à ses lèvres. Comme s'il sortait des buissons, au son de cette corde, apparaissent autant de gardes qu'il en faut, à eux de tomber sur les voleurs. En moins de rien, il les met en fuite et les pourchasse jusqu'au bois. Un peu plus loin, la même histoire. N'en pouvant croire encore ses yeux, le garçon avait puisé de nouveau dans sa poche. Il s'amusait, tout hors de soi, à regarder ce flot d'écus. Le soleil donna dessus, sans doute. Sortant comme le loup de derrière les buissons, parut une autre compagnie de voleurs. Le garçon eut juste le temps d'emboucher son cornet. Les gardes arrivèrent et firent la besogne. Lui, pourtant, il avait eu chaud. « Quel chien de pays !» se disait-il en avançant le pas. Je voudrais bien être dans la ville du roi, attendant d'y voir passer sa fille. Il crut s'éveiller d'un songe, se voyant à l'instant devant le château du roi, au premier rang des gens. La demoiselle passa dans son carrosse d'or. Et belle, belle, en faire perdre le boire et le manger. Voilà ce garçon amoureux des pieds jusqu'à la tête. Si étourdi fut-il, il comprit que la ceinture était fée, comme le cornet et la bourse. Il faudra les rendre tous trois à cette fille. Mais tant que je suis dans ce pays, je peux bien en user un peu. C'est facile de se fournir de tout quand on n'a qu'à puiser dans une bourse que rien n'épuise. Ce garçon s'habille en seigneur, tout de velours et de drap d'or. Il achète un château. Il donne des bals et fêtes. Une vie à massepain de noisilles et vin de malvoisie. Surtout, on jouait gros jeu à sa table. Lui, il perdait tout ce qu'il avait. Car il voulait bien perdre, ne lui en coûtait pas davantage. Sur ce pied-là, comptez qu'il se fit des amis. Ce ne fut qu'un bruit de ce seigneur et de ses richesses. Et la fille du roi aussi voulut en être. Jouer aux cartes contre lui, gagner ses écus comme les autres. Elle aimait les craquelins, la tarte aux amandes, les confitures, les flacons de vin vermeil et doré. Mais elle aimait encore plus le bel argent. Elle vient avec son air de chatte blanche. Le nouveau seigneur lui offre la collation. Puis, il l'amène au jeu. Quand il n'aurait pas voulu perdre ce jour-là la tête à l'envers d'amour et de simplesse, il perdait à tout coup. et toujours tirant de sa bourse des poignées d'argent blanc et toujours mettant sur la table. La demoiselle se dit à la fin que ce monceau d'écus n'aurait pu tenir dans une poche. Il y avait là, c'était forcé, quelques mystères. L'heure venue de partir, elle fit monter le seigneur tête à tête avec elle en son carrosse d'or. Là, elle l'entreprit. Elle savait filer le propos et parler doux. Une maîtresse mouche, lui, simple toujours comme un lino, finit par donner ouverture au secret. Il montre la bourse. Pour en faire l'essai, il la met même dans les mains de la demoiselle. Elle souhaite les écus. Elle voit les écus venir. Elle s'émerveille. Seulement, elle ne perd pas la tête. On arrivait au château de son père. Elle descend, toujours tenant la bourse, et soudain, faussant compagnie à son amoureux, elle entre et elle lui fait jeter la porte au nez. Tout pantois, il s'écrie. Il tape des deux poings à cette porte. Commence un beau vacarme. Alors, envoyé par la demoiselle, des bouches tambour battant, le régiment du roi. Le garçon houspillé doit se sauver chez lui. S'arrachant les cheveux. « Comment ?» se disait-il. « Je lui ai confié le secret et la bourse. Et elle me chasse et se joue de moi. Qui l'eût cru à la voir si belle, faite comme un ange avec son air de marcher sur les nuages ?» Elle sait pourtant bien que cette bourse est la mienne. Oui, mienne, puisque la fée du moulin me l'a donnée. Toute la nuit, il se désespéra de cette scélératesse. Allant et venant par la salle, il ne cessa d'adresser tout haut des reproches à la demoiselle, comme si elle pouvait l'entendre. Mais au matin, tout à coup, il se met à rire. Le cornet! Il n'avait qu'à recourir au cornet. Il l'embouche. À plusieurs reprises, il en sonne. Encore et encore. Autant qu'il le faut pour avoir auprès de lui des centaines de gardes. Alors, il marche sur le château du roi. Son monde fit merveille. En moins de rien, tapant comme des sourds, ils déconfirent les autres et le garçon se trouva maître de la place. La demoiselle parut, effarouchée, l'air plus que jamais chatte blanche. « Mais qu'avez-vous à mener ce tapage? Ne pouviez-vous me prêter un moment votre bourse? Je ne voulais que la faire voir à mon père. Pour cela, j'ai donc tant démérité auprès de vous. » « Te tairas-tu, langue dorée? » Voilà ce qu'il aurait dû dire. Mais les regards de la demoiselle lui prenaient le cœur, l'innocent. Il n'osait seulement se saisir de sa bourse et la fourrer dans sa poche. La demoiselle se met sur les cajoleries. Certainement, il fallut qu'il fût grand seigneur et de grand savoir-faire pour être entré en possession de cette bourse des fées. Mais il fallait qu'il fût le fils de quelque roi, puisque subitement on l'avait entouré de gardes et en termes de faire la guerre. « Je vous donne donc permission d'aller demander ma main au roi mon père. Nous ferons les noces dès ce soir. » L'étourdi croyait déjà entendre les cloches de ses épousailles et ses cloches lui tournaient la tête. Le voilà. Tout est perdu, tout confié, tout abandonné à cette demoiselle. Parce qu'elle, la fine mouche, se doutant bien de quelque autre mystère, elle l'a entrepris sur ses soldats. Comment se fait-il qu'en si peu de temps, il ait levé si belle troupe? Il y faut encore de la magie. Puisqu'ils sont pour être mari et femme, ne doivent-ils pas partager leurs secrets? Et lui? Ah! Qu'il était jeune et sans méfiance. Lui! Ne va-t-il pas lui faire part du sien? Il tire le cornet de sa chemise, il le montre, il raconte. Elle, lorsqu'elle sait que ce garçon n'est ni fils de roi ni grand seigneur, et qu'il a cru pourtant devenir son mari d'orgueil et de fureur, elle manque d'étouffer. Pleine d'avis aussi, à l'idée du cornet merveilleux. Ce n'était pas seulement l'avarice qui la mordait, la gourmandise qui la tenait, c'était l'envie. L'orgueil et la colère. Comme une chaîne d'or, cette fille du roi avait autour du cou les sept péchés mortels. Elle se contint cependant. Elle n'avait pas lâché la bourse. comme par jeu, elle étendit la main, se saisit du cornet, y souffla une fois, deux fois, ces deux fois pour avoir une troupe plus forte encore que celle du garçon. Et lui, à force d'être amoureux qu'il était bête, il admirait la bonne grâce qu'elle avait à souffler dans ce cornet. Jusqu'au moment où, ne prenant plus la peine de feindre, elle lança sa troupe. En un moment, tout change. C'est bien juste si le garçon peut échapper sans tirer, sans perdre la vie. Elle aurait fait tuer aussi allègrement qu'on écrase une mouche. Il se cacha dans un pommier au fond d'un clos. Bien lui en prit de savoir grimper. Et là, sur la branche comme l'écureuil, il attendit nuit faite. Est-ce bien Dieu possible? M'avoir trompée de la manière, moi qui aurais de bon cœur donné mon sang pour elle? Il ne faisait que tourner et retourner cela. Il en aurait séché d'indignation. Ah, oh, si je la tenais maintenant, je crois que je l'égorgerais de cette lame. Que ne suis-je au fond de sa chambre? À peine le souhait formé, il est réalisé. Car le garçon était ceint de la ceinture, il n'y pensait pas. Sa lame à la main, il se trouve en la chambre de la demoiselle à côté de son lit. Elle s'éveille et l'a devant les yeux, furibond, prêt à lui couper le cou. « Hélas! Vous m'en voulez! Je désirais seulement voir si ces soldats surmonteraient les vôtres. Pourquoi vous êtes enfui? Me jugez-vous de mauvais cœur? » Au lieu de reprendre bourse, cornet de disparaître aussitôt, il était là, roulant les yeux et se demandant ce qu'il devait faire. Point encore arrivé tout à fait à comprendre qu'il n'y avait aucune fiance à avoir en cette demoiselle. Ah, la bête, la bête, la bête! Même s'il y avait faute, ne pourriez-vous me le remettre? Ah, je vois bien que vous ne m'aimez guère, le traître. Tout de suite, il a mal pensé de moi. Et je ne souhaitais ces soldats que pour être sa reine dans son royaume au bout du monde. Cela donne une idée au garçon. Il la prend des deux bras. Il souhaite, comme elle avait dit, d'être au bout du monde avec elle. Les y voilà, dans la minute, là où le monde s'arrête. Il y finit en queue, fermé par les rochers, barré, bouclé, après quoi plus rien. Mais la fille du roi n'allait pas s'amuser à contempler ce bout du monde au clair de lune. Si confondue qu'elle fut, sa malice ne la quitta pas. Elle était dans les bras de l'autre. Elle y resta et en un moment, il sut lui donner d'abord un grand repentir d'avoir voulu la tuer. Ensuite, un grand désir de se racheter en prouvant à sa belle qu'il se fiait tout à elle. Ainsi lui fit-elle dire le secret de la ceinture. Qui s'abuse une fois n'est pas à condamner. Deux fois pense encore. Mais celui qui tombe trois fois dans le même panneau, celui-là mérite qu'on lui attache une queue de renard au collet et qu'on le mette hors de cause à coups de pied au derrière. Pour montrer au garçon comme elle était touchée de sa confiance, la demoiselle lui fit un doux baiser. Par curiosité, cependant, elle voulut voir la ceinture. Le temps de dire « pip », elle la dénoua sans saigner. Et comme elle avait souhaité d'être de rechef à sa chambre, elle y fut. Et le pauvre garçon se trouva seul au bout du monde. Seul. Sans sa bourse. Sans son cornet. Sans sa ceinture. Sans autre ressource, sans espoir aucun. Si démonté pour le coup, si abattu de chagrin qu'il ne sut que tomber au pied d'un arbre. Le cœur crevé par la perfidie de la demoiselle, il se prit à verser des larmes grosses comme des pois. Et sous l'ombrage, si bien l'accablèrent et sa détresse et sa fatigue, qu'il s'endormit. Peut-être dormit-il le reste de la nuit, un jour, et une nuit encore. On peut le croire, car lorsqu'il se réveilla, au grand jour, il mourait de faim. Oh, quelle fringale! Il aurait donné tout au monde, même la demoiselle et ses belles façons, pour une de ces coupes de maçon où la cuillère se tient droit. Mais il était au bout du monde, et pas de soupe. Il ne s'était rien mis sous la dent depuis le moment qu'il avait joué aux cartes. Coûte que coûte, il lui fallait manger. Alors, il s'avisa que l'arbre sous lequel il avait dormi portait des pommes. Point point tout à fait pomme, mais aussi rouge que pomme peut être rouge. Rondement, il en abattit trois, et tout aussi rondement, les croqua. Il aurait juré que jamais il n'avait rien mangé de meilleur. Par leur goût, ces pommes dépassaient tous les fruits des vergers. Il aurait dû pourtant s'en défier un peu. Sitôt ce repas de semble pomme fini, il sent au bout du nez une démangeaison. Le nez se met à lui pousser, et à lui pousser comment? Deux pieds pour chaque pomme. Ah, le malheureux! Il lui fallut aller avec ce boudin de nez qui traînait jusqu'à terre. Eh bien, voyez, la trahison de la demoiselle l'avait tellement chaviré que le reste ne lui en était rien. Il avait mis 5 autres de ses pommes en une de ses poches avant de savoir leur vertu. Il ne les jeta même pas. Cependant, avec ce nez qui brinque-ballait, ce jour-là, il n'alla pas loin. Sur le soir, il s'arrêta sous un autre espèce de pommier qui portait des autres sembles pommes, celle-ci plus jaune que l'or. Le garçon était payé pour se défier des fruits en ce bout du monde. Mais quoi, il fait bien qu'il mangeât. Et puis, du moment que la fille du roi lui avait joué ce tour affreux, les sembles pommes pouvaient bien lui jouer celui qu'elle voudrait. Quand bien elle devrait me faire pousser des oreilles d'âne. Il cueillit une pomme jaune. Il la croqua. Et si bonne à croquer! Or, il s'aperçut que le nez lui redemangeait, mais cette fois pour raccourcir. De tout un pied, il raccourcit. Le garçon croque une deuxième pomme. Elle a pareil effet. De même, une troisième, puis une quatrième. À la cinquième, le nez reprend au milieu de la figure sa vraie façon de nez. Sur une sixième, sans doute, qui lui rentrait dans la tête. Revoilà un nez comme en ont les personnes. Et quoi qu'il en fût dit, le garçon en fut aise. Toutes ces aventures, cependant, lui avaient ouvert les idées. Il abat 5 des pommes jaunes, il les fourre en une autre poche, et de son pied leste, il repart pour le pays de la demoiselle. La route est plutôt longue. Les sembles pommes, pourtant, ne verrent pas à nourrir, aussi fraîches qu'au premier jour, aussi rouges et aussi jaunes. Mais le garçon se donna bien garde d'y mordre. Il avait son idée. Plutôt que de toucher à sa provision, il eut mangé des glands. Il vécut du fruit des buissons, s'il le fallut. Enfin, il arriva au pays des gourmands, et là, il put manger comme mangent les personnes. Va pour se refaire. Mais il avait un petit compte à régler, il ne l'oubliait pas. Il s'habille en manière de roi mage, il se passe la face et les mains à la suie. Et puis un dimanche, à la sortie de la grand-messe, ayant mis les pommes rouges dans une corbeille, il va les crier sur le passage de la fille du roi. Il la savait gourmande, comme chatte de chanoine. Et la voilà curieuse, autant que Matou qui a senti la souris. Elle vient à ses sembles pommes, elle les flaire. Le prétendu vendeur montre sur ses doigts qu'il en demande 5 pièces d'or. Mais si tout le marché est fait, il se tire de là. Il savait que dans un quart d'heure, il ne ferait guère bon ici pour le marchand. De fait, ces pommes si friandes, la fille du roi les croque l'une après l'autre et le nez se met à lui allonger jusqu'au creux de l'estomac, jusqu'aux genoux, pour finir jusqu'à ses pantoufles. Elle, si recueillie toujours en sa beauté, et qui prenait tant de plaisir à faire l'ange, se voir avec ce nez. Ah, imaginez quelle fureur! On cherche le vendeur qui ne se trouve plus. On envoie quérir des médecins, des apothicaires, mais de remèdes, aucun n'en imagine. La demoiselle, elle, en aurait dansé comme un coq sur ses braises. Si on ne lui enlevait pas ce nez, elle allait mourir. Le roi, pour faire quelque chose, fit pendre 6 des médecins et autant d'apothicaires. Le troisième jour, on vient dire qu'un sorcier est là qui veut parler. Entre une sorte de mort, tout brun de peau et barbu comme un bouc, que coiffe un chapeau de verveine. De sa souquenille, il tire une pomme plus jaune que l'or. Il fait savoir que la demoiselle sera délivrée de son infirmité si elle le mange. On montre au sorcier d'une part un sac d'argent et de l'autre une corde. On lui remettra l'une en main ou on lui passera l'autre au cou, selon que son remède agira ou n'agira point. Il dit qu'il le veut bien et présente de rechef la pomme. La demoiselle se décide à la manger et, oh, la merveille, son nez diminue d'un bon pied tout aussitôt. Mais il aurait dû redevenir ce qu'il doit être, dit le sorcier en approchant. Il faut qu'ait été empêchée la vertu du remède. La demoiselle aurait-elle sur soi quelque chose qu'elle ne devrait pas avoir? En ce cas, qu'elle me le remette, nous essaierons d'une deuxième pomme. Sa beauté, sa figure de toute belle, c'était encore le trésor qu'elle préférait à tous les autres, cette fille. Elle tire la bourse magique de son corsage, la tend au sorcier. Lui prend la bourse et la met dans sa poche. La deuxième pomme jaune a son effet, le nez raccourci d'un pied encore. Il faut qu'il y ait quelque chose autre de prix que détienne sans droit la demoiselle. Mon Dieu, dit-elle, si peu que rien alors, ce cornet de cuivre que j'avais gardé par mes gardes. Elle tend le cornet, reçoit une troisième pomme, la mange, voit son nez raccourcir de nouveaux pieds. Mais restait deux pieds de trop. Et le sorcier de reprendre son refrain. Ah! Fit la demoiselle, j'oubliais. Mais c'est si peu de choses, une sale vieille ceinture que j'ai là sous ma robe. Elle s'en défait. Le garçon la passe autour de soi. Depuis qu'il avait vu la fille du roi avec ce nez ballant comme une saucisse et ses yeux rouges et cet air de furie, tout délivré de ses chaînes d'amour, il ne sentait plus qu'une envie de rire comme à la farce. Il regardait donc la demoiselle manger la quatrième pomme. Et n'ayant pas plus de fiel qu'un pigeon, il tenait en sa main la cinquième tout prêt à la lui tendre. Car tout un pied de nez encore pendait à ce visage de princesse. À ce moment, elle regarda aussi le sorcier. Elle ne le reconnut pas sous son brou de noix et sa barbiche de bouc. Mais elle s'avisa de son envie de rire. Furieuse comme une chatte, elle décida que dès que le remède aurait opéré, on passerait à l'homme pour prix de ses services, non pas le sac d'argent, mais la corde de chanvre. De cette belle pensée vint le reflet sur sa figure. Sans la deviner tout à fait, le soi-disant sorcier frémit. Tout lui revint. Il vit à plein la fausseté de la demoiselle. Qu'il ferait meilleur, se dit-il, être près de quelque bon naturel de femme. C'était un vœu. Eut son effet la ceinture magique. Le garçon se trouva avec sa pomme dans le moulin, près de la petite meunière à laquelle il pensait peut-être, sans le savoir, celle qui avait l'air si bon, si vrai, qu'on aimait la regarder. Et la belle princesse resta dans son château avec, pour le reste de son âge, ce nez qui lui pendait jusque sur le menton. Ainsi le bon Dieu fit que l'autre n'aurait pu se résoudre de faire. Mais déjà ce garçon ne pensait plus guère à la fille du roi. Cette même saison, la fille du moulin et lui se marièrent. Elle remit sous la pierre, bourse, cornet, ceinture. Sans en chercher, ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Et Bara, Bari, le conte est fini.
Recherche, lecture et montage, Marie-Hélène Bourret.